C'était il y a bientôt 8 ans. Le 22 mars prochain, nous nous souviendrons des attentats qui ont frappé Bruxelles et Zaventem en 2016. Des événements qui ont connu il y a quelques mois leur dénouement sur le plan judiciaire. Le procès d'assises s'est achevé le 15 septembre dernier avec le prononcé des peines. Alors aujourd'hui, à quelques jours de ces commémorations, nous allons en quelque sorte tenter de comprendre ce qui reste de ce procès, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a permis. Des questions subsistent donc aussi. Et nous allons poser ces questions à travers une démarche particulière. Lamia Amrani et Isabelle Seret ont rencontré plusieurs parties civiles, parfois victimes directes des attentats, ou alors des personnes qui ont témoigné devant la cour d'assises. Et leur objectif, c'était d'abord de comprendre si un verdict met fin, non pas aux souffrances physiques et psychiques, mais à certaines interrogations. Elles ont ensuite proposé à 5 de ces personnes de rencontrer, de mener elles-mêmes des entretiens, parfois très longs, avec quelqu'un susceptible de les éclairer. Vous allez donc entendre plusieurs entretiens menés par Christelle, par Sandrine, par Cédric et Frédéric. Vous allez aussi entendre la présidente de la cour d'assises, Laurence Massard. Elle s'exprime très peu dans les médias et elle reviendra en particulier sur ce qu'est un verdict. Mais tout d'abord, je vous propose d'entendre une partie civile. Elle se prénomme Patricia et elle se souvient du moment où les peines ont été prononcées le 15 septembre dernier.
Il y avait une certaine effervescence, tension, je ne sais pas comment le dire. Bon, voilà, ce n'était pas un jour comme un autre. Donc, leur peine, leurs années de peine ne réparent pas ce qu'on a vécu. Et donc, je peux encore me sentir, concernée par leurs conditions de détention, par exemple, des choses comme ça. Bon, ça peut être choquant pour certains, mais... Et nous, on était lessivés, déjà, donc... Et en même temps, on parvenait pas non plus vraiment à se quitter, je vais dire comme ça, et à quitter le lieu. Donc, il y avait... C'était très mitigé. Il y avait un soulagement très fort et une tristesse peut-être d'une potentielle désagrégation de ce rassemblement qui était malgré tout un rassemblement qui s'est fait dans une certaine humanité qui nous a enrichis et voilà, il fallait faire confiance au chapitre suivant, on va dire ça comme ça, et à ce que chacun va faire de ce chemin.
RTBF, il est 23h.
Le procès historique des attentats de Bruxelles au Justitia à Rennes est terminé. Chaque accusé reconnu coupable est désormais fixé sur sa peine. Aucune peine supplémentaire n'a été prononcée à l'encontre de Salah Abdeslam.
Ah, je crois que c'est par là qu'on doit passer. On doit passer par là pour les badges. Voilà.
Donc elle nous indique, lorsque vous aurez passé le portique de sécurité, vous tournez dans le couloir de gauche, au bout de ce couloir, sur votre gauche, se trouvent des ascenseurs et un escalier. On est au moins un.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Je crois que là on est où ?
Par contre, tout droit je pense.
Je vais peut-être mettre un petit bouton rouge pour qu'on ne nous dérange pas.
Oui.
Je suis Laurence Massard. Je suis le premier président de la Cour d'appel de Bruxelles et je me suis auto-déléguée pour des raisons de manque d'effectifs comme président de la Cour d'assises des attentats de Bruxelles. Enfin, ce procès dit des attentats de Bruxelles. Alors... J'ai beaucoup réfléchi, vous savez que j'ai beaucoup hésité avant d'accepter. Pour plusieurs raisons, j'ai hésité. La première, c'est que j'ai tenu le micro de 9h du matin jusqu'à très tard le soir pendant 9 mois et que c'était peut-être aux autres de parler de ce procès. Et la seconde raison, elle est d'ordre beaucoup plus légal. Je suis évidemment soumise au secret professionnel. d'autant que ce procès, dans son volet civil, n'est pas terminé. Et donc, je vais vous décevoir et parfois vous dire, je ne répondrai pas, je vais répondre sur la cour d'assises en général, mais pas sur le procès en particulier.
Alors ici, on vous rencontre dans le cadre du verdict. Mm-hmm. Comment s'élabore un verdict ?
À la cour d'assises, ce sont des questions auxquelles le jury doit répondre. Donc on ne part pas dans le tout. On a vraiment un squelette, une structure juridique. Et c'est celle-là qui va nous guider. Cette structure est d'ailleurs soumise à la contradiction des parties. Les avocats, le procureur peuvent contester cette structure, ce questionnaire. Et puis comment ça s'élabore ? Mais assez simplement, on entre en délibération. On va, dans toutes les sessions d'assises, d'abord brosser tout ce dossier, balayer tout ce dossier de manière plus générale. Et puis, on va prendre ce questionnaire dans l'ordre des questions. Et on va délibérer question par question. Les jurés ont accès au dossier papier, ont accès aux pièces à conviction. Ils ont accès à tout. S'il y a une question juridique qui doit être tranchée, ça dépend des sessions d'assises. On leur explique, parce qu'en fin de compte, c'est eux qui vont décider, donc on leur explique. Et comme je dis, si on ne peut pas expliquer du droit à un citoyen, c'est que le droit est mal fait, parce que le droit est fait pour le citoyen, donc il doit le comprendre. On prend des schémas, des images, on explique, on se parle. Quand on se rend compte que les 12 jurés ont compris les questions juridiques, qu'ils ont lu tout ce qu'ils souhaitaient dans les pièces à conviction et dans le dossier répressif, qu'ils ont échangé leurs notes, qu'ils ont échangé leurs points de vue, donc ça, tout ça se fait oralement, ensemble, autour d'une table. On a fait tous les schémas possibles, on vote question à la première question. Là, le vote est individuel, écrit et secret. Et je dépouille ce vote des 12 jurés devant tout le monde, avec mes deux assesseurs à côté de moi. Et voilà. Et puis on passe à la question numéro 2, à la question numéro 3, puisqu'il y a un ordre logique, il y a une structure, il y a un squelette, comme je l'ai dit, qui est important. On ne va pas dans tous les sens. Et quand on a terminé de voter, eh bien, on arrache tous les panneaux, tous les papiers qu'on a pu écrire. On fait des photos, des tableaux, si on peut. Et on se retire les 3 magistrats effectifs pour rédiger la motivation du jury. Évidemment, ça dépend de la réponse, puisque la délibération, il y avait évidemment à charge, à décharge. On avait 2 colonnes. Et donc, on prend la colonne de la décision et on essaie de rédiger ce qu'ils ont dit en ce sens. Et puis, quand c'est rédigé, on les retrouve. On leur propose cette motivation. Et souvent, ils modifient parce qu'ils disent « moi, je veux l'accent sur tel élément plutôt que tel autre ». Ils ne changent pas la motivation, mais ils apportent leur patte. Parce qu'après tout, c'est leur décision, ils vont devoir l'assumer, et donc c'est leur motivation. Et quand on est tous bien d'accord, c'est-à-dire eux, sur cette motivation, on prononce, voilà.
Le contenu d'un verdict, qu'est-ce que c'est ?
Alors le contenu d'un verdict, là, c'est pas très différent d'une chambre correctionnelle. Ce que vous me posez comme question revient à demander à quoi sert un procès, pourquoi on fait un procès en fin de compte. Donc le contenu, c'est d'apporter la paix judiciaire. On a un comportement infractionnel qui est défini par un législateur. Et à la clé, il y a des sanctions pénales si on adopte ce comportement. Le procureur qui représente la société estime que les individus dans le box, le ou les individus, ça dépend des procès, ont adopté ce comportement et doivent être déclarés coupables et subir des sanctions de type répressif. Et puis les victimes s'expriment, enfin ça c'est tout le procès. Et l'enjeu du verdict, c'est de rétablir la paix judiciaire, c'est que chacun puisse vivre en société, vivre ensemble, c'est retrouver ce vivre ensemble après cet incident, attention, je le mets entre guillemets, cet incident du vivre ensemble. Voilà. Alors si vous voyez le box des accusés et les jurés se font face, c'est comme si on avait provisoirement mis ces personnes en dehors du vivre en société parce qu'il y a une rupture. Et donc le verdict, c'est juste de pouvoir dire on va revivre ensemble. Mais bien sûr, un procès s'est déroulé, des culpabilités, des acquittements ont été déclarés, et puis en cas de culpabilité, des sanctions.
Vos impressions par rapport à la réception du verdict, vous pouvez les donner ou pas ?
J'ai pas d'impression à donner, non seulement parce que je ne vous les délivrerai pas, mais pour raison de secret professionnel. Mais en plus, est-ce que je dois être dans l'émotion ? Moi, je ne suis pas dans l'émotion, je suis dans le travail. Et on a essayé de travailler, comme dans toutes les sessions, avec la plus grande rigueur, avec nos balises que sont le droit et tout ce qui nous avait été dit et les matériaux. Donc je n'ai pas d'impression à avoir, si ce n'est qu'on a travaillé, comme dans toutes les sessions d'assises d'ailleurs.
En rencontrant les parties civiles, on s'est tous remémoré le soir du 15 septembre avec les A1, B2, B3 qui donnaient quelque chose d'assez incompréhensible pour les parties civiles et le public. Donc à qui est destiné un verdict ?
Alors le verdict est toujours comme un jugement, comme un arrêt destiné aux parties. La cour d'assises a cette particularité, comme je l'ai dit, du questionnaire. Et donc c'est vrai que plus le questionnaire est épais, et plus c'est compliqué au départ de s'y retrouver. Mais vous partez du postulat qu'elles ne le comprennent pas ?
C'est un peu l'effet que ça a fait le 15 septembre. Maintenant, c'était particulier. Peut-être qu'il y a d'autres procès où ce n'est pas le cas.
Ah, vous parlez de la lecture.
Oui, de la lecture.
La lecture, oui. En audience. Mais vous savez, moi, je ne parlerai pas... De toute façon, je ne connais pas les impressions de la salle. Moi, je lis le verdict. C'est normal que des parties soient sous le choc et n'entendent pas vraiment les réponses quand le président les lit, même dans des sessions d'assises plus courtes et avec un questionnaire beaucoup plus succinct, parce que c'est, y a tellement d'émotions, mais les accusés, c'est pareil, il y a beaucoup d'émotions, c'est quand même un enjeu pour tous, et donc ils l'ont attendu, pendant que nous on délibère, on va le plus vite possible, mais il faut quand même prendre son temps pour faire du bon travail, c'est aussi très important, et donc cette attente fait que quand le président lit, a-t-on vraiment les oreilles ouvertes ? Bon, après je sais, j'ai entendu qu'on m'avait reproché d'avoir été un peu vite, voilà, il était un peu tard.
Christelle a souhaité rencontrer l'un des jurés du procès. Elle voulait lui témoigner son empathie, mais aussi de la reconnaissance.
En tant que partie civile, enfin en tout cas des personnes que je connais, avec qui j'ai pu avoir des contacts, il y a eu plein de réactions par rapport à ce verdict. Des gens qui étaient en colère, des gens qui pleuraient, ou des gens qui étaient très satisfaits, voilà. Il y a eu plein de réactions différentes. Personnellement, pendant l'énoncé du verdict, j'étais dans un coin de la salle parce qu'on m'avait mis tout à fait sur le côté avec mon bébé pour pouvoir sortir vite au cas où il y avait un problème. Et je me souviens que j'étais toute seule dans ce coin avec ma petite et je croisais les doigts. Et je me disais, j'espère qu'il n'y aura pas d'échéance de nationalité, j'espère qu'il n'y aura pas d'échéance de nationalité, parce que je trouve que ça en dit tellement long sur notre société, et c'était pour moi une question essentielle. Et vous ne l'avez donné à aucun. Mais moi, je fais partie de ces personnes qui ont été très étonnées que la presse n'ait pas commenté cette décision du peuple, symboliquement du peuple belge, quoi.
Je partage votre étonnement et bon, vous aviez bien compris que sur la décision, je ne peux absolument pas m'exprimer. On n'en menait pas large, très honnêtement, au moment du prononcé du verdict. J'avais en face de moi les avocats de la défense et les inculpés et donc... voilà, au moment de l'énoncé de la culpabilité, c'est évidemment plutôt vers eux que mes regards se sont tournés avant de penser aux victimes, soyons très honnêtes, puisqu'il s'agissait d'envoyer ou pas ces hommes-là en prison et pour combien de temps. Et voilà, j'ai aussi été finalement comme si je m'attendais peut-être à des effusions palpables. J'ai été surpris finalement de la retenue générale qui a été manifestée par quasiment tous les acteurs à l'énoncer, même s'il y avait des choses qui se vivaient à l'intérieur, évidemment.
Il y avait eu, avant le début du procès, le débat, est-ce qu'il faut un jury populaire ou pas, et finalement, cette question n'est pas encore fermée, je pense. Et je me disais, mais ces personnes vont être complètement coupées de leur vie pendant des mois et être plongées dans ce dans quoi je suis plongée. Et en même temps, je ressens de l'empathie et en même temps, vous êtes inaccessible parce qu'on ne peut pas vous parler, on ne vous connaît pas, on ne sait pas qui vous êtes, on a juste des visages et encore, on ne se souvient pas de tout le monde non plus. Moi, il y a un moment qui m'a beaucoup marquée quand j'ai témoigné, c'est qu'à la fin de mon témoignage, quand je me suis levée, vous m'avez souri. Et du coup, je vous ai rendu votre sourire. Et comme j'étais souriante, il y a toute la rangée la première rangée des jurés qui m'a souri. Et je suis partie comme ça, j'ai quitté la salle comme ça, et je l'ai expliqué à tous mes proches en disant, ils m'ont souri. C'était un petit signe, mais pour moi, c'était vraiment un symbole. C'est comme si le peuple belge me disait, on te reconnaît, on reconnaît ton histoire, et merci de l'avoir déposée. Et la question que j'avais, c'était aussi de me demander, est-ce que le jour du verdict sur les peines, donc le dernier jour, est-ce que vous êtes parti après cet énoncé du verdict serein, ou est-ce que ça reste difficile de se dire qu'on a fait partie des gens qui ont condamné des gens à de la prison ? Est-ce que c'est la fin de l'histoire et on ferme la page ou pas ?
Ah, il y a plein de questions. Dans ton intervention, Christelle, je vais essayer de revenir sur deux, trois choses, notamment sur ton témoignage et sur le sourire. C'est censé l'être dit entre nous, entre jurés. On était évidemment très attentifs aux témoignages de toutes les parties civiles, de toutes les victimes qui sont venues témoigner avec courage. Et moi, je trouve que c'était la moindre des choses que de recueillir votre témoignage par ce qu'on pouvait faire, c'est-à-dire extrêmement peu. On ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas faire de signes, de gestes. Et donc le sourire, ça paraît être vraiment ce qu'on avait de plus accessible pour vous manifester en effet notre empathie, en effet notre écoute et la manière dont nous avons été touchés par les témoignages des différentes victimes. Et ça restera à vie. C'est vrai que quand je prends le métro, c'est inévitable. Il n'y aura plus jamais un trajet en métro aussi insouciant qu'il ne l'a été par le passé. Voilà. Pour ce verdict, une fois qu'il a été prononcé, j'avais le sentiment d'un devoir accompli. Je me suis vraiment posé en citoyen tout au long de ce procès, faisant œuvre d'un acte démocratique.
Si c'était à refaire, est-ce que vous, si on vous donne le choix, est-ce que...
Oui, je le refais.
Vous le referez ?
Je le refais, mais je le refais évidemment différemment. Participer au procès, hein, participer en tant que juré, ça que tu veux dire. Oui, oui. Oui. Mais je me prépare physiquement à l'épreuve que c'était d'être assis comme ça pendant des longues heures. On était quasiment les seuls avec les magistrats à ne pas pouvoir bouger.
Oui.
Mais je vous enviais. Moi, je vous, attention, pas sur votre vécu, évidemment, mais je vous enviais sur cette possibilité d'aller à la rencontre d'autres, de se serrer dans les bras après un témoignage, d'être réconforté par ce service d'aide aux victimes qui étaient en bleu avec la vareuse, de pouvoir aller dans l'immédiateté se confier à quelqu'un.
Oui. Moi, ça me touche vraiment beaucoup de te rencontrer. vraiment, ça fait vraiment quelque chose au fond du cœur. C'est particulier de se rencontrer enfin, j'ai envie de dire. Ça, on devrait pouvoir se rencontrer, je trouve, mais bon, ça c'est mon côté humain qui ressort. Oui, ça fait remonter beaucoup de choses. Oui.
Bien sûr.
C'est plein de souvenirs difficiles, mais aussi plein de bons moments dans ce Justicia, ce lieu. Mais oui, il s'est passé beaucoup de choses.
Sandrine se questionne encore. Le 22 mars 2016, est-ce un crime de guerre ou un acte de terrorisme ? Suite à la plaidoirie de Nicolas Cohen, avocat de Bilal El Makouki, elle éprouve le besoin de comprendre son argumentaire.
Tu as préparé des questions ?
Oui.
Par écrit ?
Oui. Enfin, je les ai mises par écrit, mais je les ai mises juste pour... J'ai quand même envie d'un peu préciser ma pensée.
Tu sais réexpliquer pourquoi tu avais envie de rencontrer Maître Cohen ?
Mais moi, j'avais envie de rencontrer Maître Cohen parce que donc, c'est le seul avocat lors de ce procès-ci qui est venu avec une défense tout à fait spécifique, à savoir qu'il a défendu le fait qu'on n'était pas dans un acte terroriste, mais qu'on était dans le cadre d'un crime de guerre.
Oui, bonjour, nous avons rendez-vous avec Nicolas Cohen.
Je vous ouvre, vous pouvez patienter dans la salle d'attente.
Merci.
Bonjour.
Vous pouvez prendre place. Est-ce que l'une d'entre vous veut du café ou du thé ?
Moi, je veux bien un verre d'eau. Moi aussi un verre d'eau.
J'ai trouvé que ça manquait un peu d'analyse après sur qu'est-ce que... ce verdict nous a dit.
Oui, je trouve aussi, j'attends.
Voilà, moi j'étais aussi étonnée que personne ne se saisisse du fait qu'on n'avait pas retenu, que le jury n'avait pas retenu la déchéance de nationalité, ce que je trouve un fait quand même assez remarquable.
Oui, ouais, tout à fait. Il va y avoir d'autres débats sur la déchéance de nationalité, peut-être y aura-t-il des débats politiques, et là on verra un peu qui s'empare de cette décision. Il faut faire très attention à ce qu'on fait dire, à ce qu'il pourrait y avoir derrière une décision de justice, parce qu'il y a souvent des éléments même qui nous échappent. Mais on attend effectivement les commentaires.
Et il va y en avoir ?
J'espère. J'espère, oui, parce qu'il y a... déjà, c'est des sujets de recherche fréquents, notamment la déchéance de nationalité, mais le terrorisme aussi. Il y aura à un moment donné des commentaires, mais je n'en ai pas encore lu sur l'arrêt lui-même.
Ok, parce que moi, je trouve que ça ne vient pas. Je me plains du fait que ça ne vienne pas. Mais bon, voilà, ça c'est ma temporalité.
On est aussi dans l'attente, mais je crois que c'est normal. Ça. Finalement, c'est quand même très récent à l'échelle des commentaires du droit, des publications juridiques. Mais je sais qu'il y a plusieurs travaux en cours, donc est-ce que ça va intégrer ces sujets-là ou pas ? Ça, on verra.
Ce qui a été compliqué là-dedans, c'est que justement depuis le début, depuis le jour des attentats jusqu'à ta plaidoirie, j'étais victime d'un attentat terroriste et c'est d'ailleurs ce que le verdict a confirmé. Et là, tout d'un coup, tu ouvrais un champ qui remettait tout ça en question. Donc ça m'a... oui, ça m'a fait exploser parce que tout d'un coup, je me suis reposé la question pour savoir de quoi j'étais victime. Il y a aussi le fait que moi, la réponse que j'ai eue de beaucoup de personnes, de beaucoup de victimes, c'est « mais ça ne peut pas être un crime de guerre, on n'était pas en guerre ». C'est là où moi, ça me fait beaucoup bouger, c'est « est-ce qu'on était en guerre ou pas ?» Et comment est-ce que nous, de là où on est, on s'intéresse à la guerre ? Moi, j'avoue que je ne m'y intéresse pas. Et donc, voilà, mais je me rends bien compte que c'est peut-être quelque chose... Je ne dis pas que je dois m'y intéresser, mais en tout cas, dont je dois avoir conscience.
Mais moi, quand je rencontre ce client-là, On prépare le procès des attentats de 2016 et je vois toute une série de ses démarches à lui qui s'inscrivent dans le cadre de la guerre. Et là, je me dis, tiens, est-ce qu'il y a un lien ? En tout cas, il y a un lien pour lui à ce moment-là. Mais à ce moment-là, c'est juste un lien pour lui. Moi, j'ai travaillé spécifiquement sur cette question-là, en collectant dans le dossier tous les éléments qui étaient liés à la question de la guerre et en interrogeant systématiquement tous les intervenants qui venaient au procès et qui faisaient des liens avec cette question-là. Ces actes-là, ils sont intrinsèquement liés à la guerre. Et elle apparaît bizarrement comme l'éléphant dans la pièce, que personne ne veut voir, que personne n'interroge, alors que tous les juristes savent que c'est une question qui se pose. Personne n'a pu ignorer qu'il y a un lien entre les deux, ne serait-ce parce que tout simplement on a les enregistrements vocaux des auteurs qui nous disent qu'il y a un lien entre les deux.
Les deux, c'est quoi ?
Entre la guerre en Syrie et l'attentat commis ici. Juridiquement, ça met les choses même à un degré de gravité presque supérieur. Dans l'ordre des infractions, on est dans les crimes graves du droit international. Donc on n'est pas du tout en train de chercher une quelconque circonstance atténuante.
Ça dit quand même quelque chose de la société dans laquelle on est que de refuser cette thèse. Et qu'est-ce que ça dit de nous ?
Quand un État utilise sa violence, il doit pouvoir dire à ses citoyens « Sachez que j'engage ma violence et il y a, non pas tant des conséquences, mais il faut savoir qu'on entre dans ce type de relation. Il faut pouvoir assumer ça. Ces attentats, ils arrivent dans une société, ils n'arrivent pas de nulle part. » Et cette société, elle a encore affaire avec les individus qui ont été jugés pour ça. Donc, je crois que le volet restauration du lien avec la société, justice restauratrice et la manière dont nos clients, enfin mon client et les accusés condamnés vont vivre leur peine, est aussi un champ dans lequel on peut montrer qu'on va faire la paix. Donc voilà, c'est un peu ma manière de répondre.
Moi, je voulais encore revenir parce que tu as pris beaucoup de temps à définir ce qu'était la guerre, le crime de guerre. Et je sais qu'après, enfin, pendant ta plaidoirie, et par contre, tu n'as pas défini ce qu'était le terrorisme.
Donc la phrase normalement que j'utilise habituellement, parce que c'est un peu la phrase qui est convenue d'utiliser, c'est qu'il n'y a pas de définition internationalement reconnue du terrorisme. Il y a différentes définitions qui sont proposées. Évidemment qu'il en existe des définitions, sinon il n'y aurait pas d'infraction. Donc en tout cas, en Belgique, on a une définition. Pour moi, l'idée importante, c'est que c'est une infraction qui est en fait assez difficile à identifier parce que ce qui fait terrorisme dans l'infraction, c'est très lié à l'intention. Donc en gros, la dimension la plus importante, d'une certaine manière, de l'infraction, c'est celle la plus difficile à appréhender. Il suffit de regarder le fait que les listes terroristes ne sont pas toutes les mêmes selon les pays. Et dans l'histoire du concept terrorisme, il y a aussi le fait qu'on nomme terroriste son ennemi. Et que l'avantage pour un État de nommer terroriste son ennemi, c'est de créer une asymétrie en disant « moi, État, j'agis avec les voies de l'État, mais mon adversaire, il ne peut jamais agir de manière légale puisque par sa nature, il est infractionnel. » Or, si le groupe État islamique n'est qu'un groupe terroriste, il ne peut pas faire quoi que ce soit de légal. Et donc, c'est là qu'on arrive à une espèce de hiatus, raison pour laquelle, aujourd'hui, le groupe État islamique, maintenant, il est bien connu comme ayant deux casquettes. Et alors ça ne simplifie pas les choses. Ça permet de les dépatouiller, mais ça fait qu'on a un adversaire qui a à la fois la casquette terroriste, donc une illégalité totale, pour tout ce qu'il fait, respirer dans le cadre de l'État islamique, c'est déjà une infraction, et à la fois une possibilité d'action qui est dans le cadre de la légalité, puisque étant un acteur dans une guerre, ces actes de combat ne sont punissables que si c'est des crimes de guerre. Il est plus facile d'admettre que des belligérants ont des projets de société différents, et c'est plus ou moins tolérable d'ailleurs ça, même si parfois, mais dans le cadre d'une guerre, qu'en matière de terrorisme où le projet politique, encore une fois au sens large, du groupe identifié comme terroriste est par nature disqualifié. Et ça c'est vachement problématique en fait, parce que ça empêche totalement de répondre aux questions qui sont parfois très concrètes dans les motivations des gens qui sont visés par les poursuites pour terrorisme.
Mais alors moi je le mets, et pour l'instant Nicolas ne le fait pas tellement, mais moi je le mets vraiment en lien avec l'État, avec mon gouvernement. Et donc, c'est vrai que j'ai... C'est ça qui était vraiment difficile, c'est que j'avais l'impression d'avoir été trompée. Et un peu volontairement trompée. Mais je ne sais pas, alors je ne suis pas du tout complotiste, hein, mais un peu de dire, est-ce qu'il y a une nécessité politique à ne pas vouloir reconnaître qu'il participe à des actions de guerre?
Oui, ça c'est une question qui est très complexe. L'arrêt dit, reconnaît, enfin, il y a ce paragraphe dans l'arrêt qui dit qu'il y avait effectivement une situation de conflit armé entre l'État islamique et la Belgique. Mais ça, c'est le côté victoire juridique. Mais ce n'est pas ça qui est important. Le but, c'est d'arriver à quelque chose qui a du sens. Et je termine là-dessus, mais pour moi, c'est vraiment le point de bascule de ma conviction. Après tout ce que j'ai dit là, c'est le fait qu'avec la notion de guerre, on peut entrer en lien avec la notion de paix, avec laquelle on est complètement coincé dans le terrorisme. Et ça, je dois reconnaître que cette perspective-là, malgré toute l'horreur du truc, malgré toute la souffrance qu'on a portée, qui est véhiculée, eh ben, ça, c'est formidable. C'est une puissance de signifiant qui fait résonance pour tout le monde, qui donne de la place à chacun, qui va permettre de s'écouter, qui va faire exister ces faits, mais dans autre chose que simplement l'horreur, dans le temps à venir. Y compris le temps de la peine. Ça me crée encore une certaine émotion d'y penser. Mais ça, c'est quelque chose qui est impossible en matière de terrorisme.
Moi, je voulais encore juste, mais ça, c'est pour préciser. Donc, moi, j'ai été fort ébranlée, j'ai parlé d'explosion. Mais j'ai aussi trouvé ça d'une richesse inouïe. Donc, voilà, je veux que tu puisse te saisir du fait que moi je le vis positivement aujourd'hui, même si sur le moment même j'étais vraiment très très déstabilisée, mais que pour moi ça a été un des grands moments de ce procès. C'est toute cette journée et cette discussion, et qui continue à travailler pour moi.
Merci.
Moi j'ai fini.
Une fois le procès pénal terminé, que deviennent ceux qui ont été condamnés? Cédric s'interroge, il se rend à la prison d'Ittre et rencontre sa directrice, Valérie Lebrun.
Bon, monsieur le chien, je vous explique. C'est dans le cadre d'un...
Documentaire radio.
Documentaire radio.
Ok. Faire le tour en passant par la salle de visite, le couloir qui va donner vers les ateliers, passer aux ateliers, passer dans le cellulaire, monter...
La particularité des personnes qui sont condamnées pour des faits liés au terrorisme, c'est qu'à l'heure actuelle, dans nos sociétés, il y a un focus par rapport à ce type de faits. C'est pas nouveau, ça a toujours été. On a eu le même phénomène avec la délinquance sexuelle. Je me permets de le dire parce que... ça peut poser question sur la gestion de la justice, à savoir qu'on crée des catégories spécifiques qui fait que ces catégories sont du coup exclues par rapport à une série de mesures. Ça pose question par rapport à la notion de « on est tous égaux devant la loi ». Mais en tout état de cause, c'est très clair qu'il va y avoir la mise en place d'outils d'observation, notamment, d'outils de contrôle, qui n'existe pas pour les autres catégories de population.
Est-ce que cette somme d'informations donc, que vous venez d'expliquer avoir en votre possession permet d'individualiser ou de faire un traitement plus personnalisé pour l'un ou pour l'autre selon son parcours, son profil et ses besoins maintenant, là où il est maintenant ?
Vous avez une petite marge de manœuvre en fonction des moyens qui vous sont octroyés. Maintenant, il faut savoir que l'administration pénitentiaire, ici vous êtes dans une prison un petit peu particulière parce que vous êtes dans une maison pour peine qui est récente. la plupart du parc pénitentiaire n'a évidemment pas les infrastructures et la possibilité d'investir sa détention. La plupart des établissements pénitentiaires sont des maisons d'arrêt, des maisons de peine avec des soucis de surpopulation carcérale, ou alors à ce moment-là, il est très clair que le personnel, que ce soit des services extérieurs ou le personnel pénitentiaire, fait ce qu'il peut. Et donc, très très clairement, le temps de détention peut être un temps mort, hein. Il faut appeler un chat un chat. Ça peut être un temps mort, mais il peut y avoir aussi une série de choses qui se mettent en place.
On occupe environ entre 120 et 140 détenus par jour, donc dans différents ateliers. Alors, ça demande quoi ? Ils font la production de mèches montées sur support.
Ils sont plutôt preneurs de cette option, les détenus, en demande ?
Oui, il y a une demande, puisque bon, pour le détenu, donc ils sont ici de 7h30 du matin jusqu'à 14h30. Donc, ils sont quand même revalorisés par rapport à ce qu'ils font, ce qu'ils produisent. Puis, on se rend compte aussi sur un aspect sécuritaire qu'un détenu qui travaille, qui est occupé, pose moins de problèmes de sécurité au sein de l'établissement.
Donc ici, on rentre vraiment dans la partie cellulaire de la prison. Donc ici, c'est une cellule dite duo. Donc c'est la même infrastructure qu'un solo, c'est le même maître.
C'est étroit, hein. Comment essayer de mettre le plus possible à profit ce temps-là, enfin, mm-hmm. Un bilan de ce temps passé qui pourrait être plus porteur, oui.
Ok, mais il y a une multitude de services extérieurs qui travaillent et qui apportent énormément de possibilités. Ils sont en sous-effectif, ils sont sous-financés, ça me paraît clair, net et précis. Il y a plein de possibilités, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la fonction première de la prison. À un moment donné, par exemple, je vais me trouver dans le quotidien avec une feuille de service qui va être compliquée, hein, donc c'est-à-dire que j'ai peu d'effectifs pour faire tourner ma baraque. C'est très clair que ce sont évidemment les cours, les activités, ce genre de choses-là qui vont être supprimées en premier. Et c'est le problème de rendre facultatif ce genre d'activités et de possibilités. Mais c'est la réalité du mode de fonctionnement aussi du carcéral, parce que, très clairement, moi, en tant que directeur de prison, c'est quoi qu'on me demande ? C'est de garder les gars à l'intérieur, hein ? C'est d'assurer l'ordre et la sécurité par rapport à la société civile. Mmh. C'est d'assurer que la sanction, en tout cas la décision judiciaire qui a été prise, soit évidemment appliquée. Et donc, c'est très clair que c'est ces process de sécurité-là qui sont plus de la sécurité que je vais appeler passive, qui vont être mis en avant la sécurité active, qui est de recréer le lien, de redonner sa place de citoyen aux détenus. On le fait aussi avec une grosse difficulté, parce qu'on va arriver là à la question des modalités d'exécution de la peine. C'est comme je vous ai dit, à un moment donné, la personne, elle a été réduite à l'acte qu'elle a commis. Tout le process va être véritablement sur le passage à l'acte. Okay. Condamnation par rapport à ce passage à l'acte. Incarcération. Réouverture où on reprend l'entièreté des éléments de la personne, etc. On arrive aux modalités d'exécution de la peine. Qu'est-ce qui va se passer ? On va refocaliser sur l'individu qui a commis un fait à un moment donné. Et c'est de nouveau ça qui va être analysé. Et qu'on fait aussi reposer sur son épaule toute la réussite ou non de son process de réinsertion. Et donc, dans le process de réinsertion, je trouve que des fois, la société prend très très peu ses responsabilités dans ce qu'elle met en place.
Oui, est-ce qu'il y a des démarches qui vous semblent constructives et qui pourraient être encouragées, venant de l'extérieur peut-être, pour rencontrer les détenus ou pour proposer des séances de thérapie ou de consultation ou autres que vous avez déjà identifiés ?
C'est un débat. Hein. Je pense que la société en général ne s'intéresse pas énormément à ce qui se passe derrière les murs et c'est lié aux fonctions de la prison. Hein. Ça reste la fonction principale qui est la punition. ou bien la protection de la société pendant une durée déterminée, puisqu'on met à l'écart les détenus pendant une période bien fixe, et tout ce qui est les autres fonctions qui seraient données à la prison, qui seraient des fonctions de réinsertion, de réhabilitation, de justice réparatrice, etc., ces fonctions-là ne sont pas les fonctions qui viennent d'emblée dans la tête de tout le monde quand on parle de prison. Et j'ai envie de dire, heureusement, vous avez utilisé le terme de réinsertion tantôt, et je vais peut-être vous choquer, j'en serais absolument désolée, mais si vous me dites que la fonction de la prison, c'est de réinsérer, c'est quand même dingue qu'il faut condamner quelqu'un, par exemple, à 20 ans, et qu'on va lui dire, à ce moment-là, ça te permettra de te réinsérer. S'il y a bien, par définition, un endroit de désinsertion, c'est la mise à l'écart au niveau de la prison. Et ça me dérange fortement qu'on demande à la prison aussi de réparer et de gérer toutes les fonctions que la société a ratées. Il y a un paradoxe. Le principal facteur de réinsertion, c'est que la personne n'arrive pas à la case prison. Et le problème de notre pays, c'est qu'on a quand même cette solution qui arrive toujours comme l'ultime remède, et qu'on fait quand même très très peu appel justement à toute une série d'alternatives autres.
Comment vous vivez votre fonction de directrice de prison ?
C'est un métier comme un autre. C'est un métier comme un autre et comme le vôtre, hein. Donc c'est plutôt la perception des personnes à l'extérieur, je pense que ça interpelle, je suis chef d'établissement d'une prison d'hommes avec plus de 400 membres du personnel, c'est un métier passionnant tout simplement, c'est vous gérez en fait une ville 24 heures sur 24, et surtout vous travaillez avec l'humain, avec toutes ses ruptures, avec toutes ses cicatrices. Et ça, c'est passionnant, l'être humain. Moi, je crois en l'être humain.
Frédéric rencontre Diane Bernard, professeure de philosophie du droit à l'UC Louvain. Il s'interroge sur le sens de la peine.
Bonjour professeur, je m'appelle Frédéric, je suis une victime des attentats du 22 mars 2016. Et l'opportunité qui nous est présentée de pouvoir discuter entre nous, à ce moment-ci, quelques mois après la fin du procès, tombe vraiment en pic, je pense, pour se poser certaines questions. Des questions sans doute un peu méta. Alors, plus précisément, c'est un petit peu savoir comment est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, le droit et la justice peuvent-ils aider les victimes et la société à aborder l'avenir ?
À vrai dire, on peut se demander si le droit et la justice s'occupent de l'avenir. Est-ce que c'est ça la question ? Si on estime que quand même au moins une partie des procès pénaux sert à pouvoir se projeter, recommencer quelque chose, construire un avenir commun ou aider les victimes à reprendre le fil de leur vie, etc. La question c'est, est-ce que le droit est en mesure de répondre à cette demande ? Est-ce que le droit est en mesure de relever ce pari-là ? Et ça c'est une vraie question. Le droit pénal c'est une affaire entre la société dans son ensemble, c'est bien l'action publique, et les accusés. Et quelque part, les victimes, oui, elles peuvent se constituer comme partie civile. Oui, elles ont gagné, heureusement d'ailleurs, un meilleur accès à la procédure, une meilleure tribune pour s'exprimer. Mais en fait, elles ne sont pas les premières parties au procès pénal et ce n'est pas d'elles dont il s'agit. Donc, il y a déjà cette question de la capacité de la procédure à répondre. Et puis, souvent, ce qu'on entend, c'est quand même, alors c'est des approches plus socio-psychologiques, etc., une forme de frustration de n'avoir pas été entendu dans la réalité de ce qu'on a vécu. Et donc finalement, ça marque vraiment la différence entre la vérité, et c'est une vérité, la vérité vécue, la vérité judiciaire, qui est dite à l'issue du procès, la vérité parfois scientifique, qui peut être différente, la vérité historique aussi, qui peut encore être différente. Et ces différents registres-là, ils ne sont pas les mêmes et ils ne se rencontrent pas nécessairement. D'autres ont mis quand même en avant que, malgré ces limites on va dire, intrinsèque à ce que c'est qu'un procès pénal, se joue dans les tribunaux quelque chose de vraiment très important aujourd'hui, quelque chose qui serait lié, alors ça va loin, hein, mais vous m'avez dit méta, donc j'ose y aller, quelque chose qui serait lié aux valeurs qui nous unissent encore. Et que finalement, il y aurait, au tribunal, un lieu qui nous resterait pour nous rappeler quand même d'un socle minimal de valeurs, d'un socle minimal peut-être défini par la négative, c'est-à-dire en tout cas d'inacceptable. Là, ça, quand même, c'est non. Dans notre diversité, on dit non à certains actes, et ces actes-là, c'est les infractions, et c'est notre façon quand même de refaire du lien et de dire qu'à ce moment-là, à ce stade-là, quand même, ensemble, on refuse. Certains, certaines mettent en avant que ça va au-delà de la réprobation symbolique, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'émotion. C'est que les procès, parfois, sont un lieu où, dans nos différences, on peut, comment dire, se reconnecter, parce qu'à tout le moins dans l'émotion, on se retrouverait, victime, proche des victimes, tiers, autour de quelque chose qui serait partagé. Et le pénal, finalement, ferait fonction de lien à cet égard-là. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'a pas été pensé pour ça, le pénal, et que les procès n'ont pas une vocation ni thérapeutique, c'est assez certain, ni même vraiment de tissage de lien, et que donc si on charge tout ça, ou même si on constate que parfois ça peut avoir lieu, ben les formes judiciaires, elles sont pas là pour ça, et donc elles correspondent mal à cet espoir qu'on peut avoir.
Il y a eu toute une série de victimes qui se posaient des questions, notamment un petit peu quant aux peines. Sont-elles suffisamment lourdes? Sont-elles correctes? Sont-elles sévères? Sont-elles trop légères? Moi, je suis de nature à accepter ce que la justice rend comme verdict. C'est un principe assez important. Ça permet aux victimes, à un moment donné, enfin en tout cas dans ma croyance de ce que la justice peut jouer comme rôle, de tourner une certaine page.
Soyons clairs, aucun verdict n'est jamais assez sévère. Par rapport au vécu des victimes, quand on a traversé des violences d'une ampleur telle que celle des attentats, mais on peut penser aussi à d'autres types d'infractions, aucune sanction n'est jamais à la hauteur de ce qui a été vécu. Et ce qu'on constate, c'est que les peines les plus lourdes, les plus sévères, ne vont pas nécessairement, et en fait pas très souvent, satisfaire les victimes, en tout cas pas l'ensemble des victimes, et qu'en même temps, les alourdir ne permet pas de répondre mieux aux fonctions qu'on peut donner au procès. L'effet de prévention générale ou de dissuasion, outre que c'est impossible à prouver, mais ne paraît en tout cas pas du tout avéré.
Comment venir combler ces attentes et faire en sorte qu'à un moment donné, le papa qui pleure le décès de sa fille puisse ne plus pleurer jusqu'à la fin de sa vie.
Alors de nouveau, c'est très très méta. Hein. Votre question est à la fois, c'est du vécu et donc c'est très important. Je pense qu'il n'est pas possible de combler les attentes des victimes, il n'est pas possible de répondre à leurs demandes. Le procès, donc la justice dans le cadre bien délimité de ce qu'elle est au sens de pouvoir judiciaire, c'est très limité, mais le procès, le verdict, la conclusion de quelque chose pourrait aider, mais donc le fait de passer par le procès pourrait permettre quelque part de reprendre une forme de mesure. C'est-à-dire de reprendre, c'est très optimiste, hein, je m'en rends compte, mais de reprendre, de sortir de la démesure, de sortir de l'horreur, de sortir de l'excès, en se disant, je reprends pied dans la société, je rentre dans ce cadre, qui est celui du collectif dont je fais partie, et j'accepte qu'ici s'achève quelque chose. Frustrant, certainement, pas réglé pour autant, mais je joue le jeu, entre guillemets, et jouer ce jeu du démocrate ou de la démocrate m'aide peut-être à reprendre le fil, à reprendre ma place dans la collectivité. Alors c'est très très optimiste, Et j'ai bien conscience du fait que, a fortiori dans des cadres comme ceux de procès pour les attentats, ça demande, le mot qui me vient n'est pas le bon, mais ça demande une élégance démocratique de la part des victimes qui est extrême. Parce qu'en fait, on leur dit, si tu acceptes ce jeu, si tu acceptes ce procès, tu nous permets à nous, collectifs, de répondre, donc à nous, société dans son ensemble, de répondre à l'horreur, à l'excès, à la démesure, au respect de rien du tout, par un procès dans les formes, à reprendre le fil d'un cadre dans lequel on joue le jeu de la citoyenneté. C'est une réponse collective à d'autres façons de fonctionner. Ici, quoi qu'il arrive, vous pouvez nous blesser aussi loin que vous y allez, nous restons démocrates. Et donc, même la pire des crapules aura un avocat, ou une, et aura droit à s'exprimer. C'est de nouveau d'une élégance citoyenne très exigeante à l'endroit des personnes qui vivent dans leur chair les actes qui ont été commis, mais je pense que c'est la seule voie de prévention à laquelle on peut prétendre. Peut-être que l'une des choses qu'on ne fait pas assez, je ne sais pas, ça m'est venu en vous écoutant, c'est de dire, on dit pardon sans doute aux victimes, mais peut-être qu'on ne leur dit pas assez merci. Parce que ce qu'on demande de leur part, se contenter du procès dans ses limites, accepter d'être repris ou reprise parmi les témoins ou non, ne pas aller tout casser dans la rue ou ailleurs d'ailleurs, ou sur des gens quand on est voilà, blessé de ce qui a été décidé, c'est vraiment un énorme effort et en fait c'est capital pour le collectif.
Un procès et après, c'était un reportage d'Isabelle Seret et Lamia Amrani avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un reportage réalisé donc quelques mois après la fin du procès en assises, du procès pénal, donc après les attentats de mars 2016 à Bruxelles et à l'aéroport de Zaventem.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits sur RTBF Ovio.